Enrico Caruso, 1873-1921. Texte rédigé par mon père en 1948 et lu par Walter. Anne Caruso eut 21 enfants, dont 18 moururent. Parmi les survivants, le 19e fut Henri, qui devint le plus grand chanteur ayant jamais existé. Quand il mourut en 1921, des millions de personnes pleurèrent sa perte dans tous les pays du monde et plusieurs milliers emportèrent le deuil. Ses funérailles à Naples furent imposantes, des fleurs et des couronnes, car il aimait beaucoup les fleurs, beaucoup de monde venu de toute localité, des organisations, des corporations et des représentants. 2 heures de défilé. Il n'était pas seulement grand comme ténor, mais aussi comme homme et très aimé par tous. En son temps, il n'existait pas encore la radio ni le cinéma. Et pour l'entendre chanter, il fallait aller au théâtre, pour le voir en personne ou autrement à travers un disque. Il n'a jamais existé une idole pour les foules qui ait enregistré autant d'applaudissements que Caruso. Il chantait surtout des opéras italiens, quelquefois français. Avec sa puissance, il savait tellement communiquer au public son émotion qui le traînait jusqu'aux larmes. Il se personnifiait tellement de son rôle que souvent ému, il lui arrivait de sangloter. Sa renommée était également grande dans toutes les capitales du monde, de Buenos Aires à Moscou. Partout, la foule l'encerclait. Dans les restaurants, à son entrée, on se levait debout et on applaudissait. Il recevait par poste continuellement des cadeaux de toutes sortes. Milliers d'articles de commerce prenaient son nom, même des cigares et des savonnettes. Aux États-Unis, il y a encore un groupe de restaurants qui porte son nom, ainsi qu'une marque de pâtes alimentaires et une fabrique de conserves en boîte. Il y eut aussi un propriétaire d'écurie qui appela Caruso un de ses chevaux de course. Et quand il courait, Henri était toujours présent. Du côté financier, dans ce temps, on ne connaissait pas encore la radio. Caruso établit des records qui n'ont jamais été surpassés. Son argent lui venait en chantant au théâtre et des disques de phono. Au Metropolitan Opera de New York, il ne demanda jamais une somme inférieure à 1,5 million de francs par spectacle. À Cuba, il fut payé jusqu'à 6 millions par soirée, et au Mexique, 9 millions. Une fois, il refusa une offre de 150 millions de lire italienne pour une tournée de 2 mois en Amérique latine. On calcule que pendant sa carrière, il gagna 6 milliards de francs. Après sa mort, les droits sur les disques ont continué sans cesse. À l'occasion des fêtes de Noël en 1943, en Amérique, furent mis en vente par la Victor Company 18 000 albums de disques de Caruso à 10 dollars chacun. Cela fait exactement un total de 108 millions de francs. Ils furent tous vendus dans la même journée. Une bonne partie aussi de sa popularité est due à son ingénuité paysanne qui inspirait des manières et des gestes de bonté, le rendant très sympathique au public. Un soir, à Bruxelles, on entendit un grand bruit en dessous de la fenêtre de son cabinet de toilette. Il alla au balcon et aperçut plus d'un millier de personnes qui s'étaient réunies là, car au théâtre, il n'y avait plus de place. C'était une soirée de gala qu'on donnait en présence de la famille royale. Caruso réfléchit un instant, puis il chanta devant cette foule dans la rue les principaux passages de l'opéra qu'on devait représenter. Un jour qu'il signait des chèques destinés aux personnes qui l'aidaient, au nombre de plus de 200, sa femme lui dit « Certainement pas tous le méritent ». Il lui répondit « Tu as raison, ma chère, mais comment savoir qui le mérite et qui non? Au sommet de sa carrière, Caruso était plutôt gros. D'une hauteur moyenne, il avait aussi un commencement de calvitie. C'était un maniaque de la propreté. Il prenait un bain deux fois par jour et en même temps étudiait la musique en se servant d'un pupitre en métal fixé à la baignoire. Pendant que, la porte ouverte, un professeur l'accompagnait au piano. Chaque matin, il se faisait raser, soigner les pieds et curer les ongles, tout en étudiant sa partition accompagnée par le piano. Il détestait les personnes sales. Un jour, il se plaignit d'une artiste avec laquelle il devait jouer le rôle d'amoureux en disant « C'est déjà terrible de chanter avec une artiste qui ne se lave pas, mais s'émouvoir pour une qui a l'haleine qui s'enlaille, c'est une chose impossible. » Henri Caruso naquit à Naples. Fils d'un contremaître d'un moulin, il fréquente l'école pendant quelques années. Son père voulait le faire meunier, comme lui, et à force de coups, il réussissait à lui faire faire quelque chose. Henri ne voulait que devenir chanteur, et pour cela sa mère l'encouragea beaucoup. La première épreuve devant un maestro fut un vrai fiasco. Son maître, Guillaume Vergine, qui à cause de son élève Caruso est resté célèbre, lui dit après cette épreuve « Tu as une voix qui ressemble au vent quand il souffle à travers les persiennes. » Cependant, il eut la permission de continuer à assister aux leçons. De ses jours de misère, Caruso a ainsi raconté à sa femme « Mon vieux complet noir était devenu vert. Pour cela, j'achetais moi-même une bouteille de teinture pour lui donner le noir et pouvoir continuer à suivre mes cours. Chaque jour, je devais faire beaucoup de chemin pour arriver à l'école, et les chaussures coûtaient cher. Ainsi, je chantais aux mariages et aux enterrements pour arriver à m'en acheter une paire. Les semelles étaient en carton, et un jour que j'allais chez mon maître, la pluie me surprit en route. Arrivé là-bas, je les déposai près d'un fourneau. Hélas, elle devint une boule de carton, et je fus obligé de rentrer chez moi pieds nus. À la fin des cours, il y avait les examens, et Caruso pria pour avoir la permission de les subir. Son maître reconnut qu'il avait fait des progrès, mais il resta froid et indifférent pour lui. Cependant, il obtint deux petits engagements et un rôle de deuxième ténor dans une petite compagnie en tournée. Cette compagnie un jour arriva dans un village où Caruso comptait des amis. Il n'avait pas besoin de lui, et par conséquent Caruso resta en compagnie de ses camarades. Ils chantèrent des vieilles chansons napolitaines et burent outre mesure. Il arriva que le ténor de la compagnie, étant pris par un léger malaise, on vint appeler Caruso pour le remplacer. Henri était plutôt gai à cause du vin bu. Il chanta très bien, mais avec la plus grande consternation de l'impresario et beaucoup d'amusement de la part du public, il culbuta contre d'autres artistes sur la scène. Le public riait bruyamment en criant « Il est saoul, il est saoul !» À la fin du premier acte, l'impresario congédia Caruso qui partit désolé d'avoir manqué une occasion pareille. En se retirant dans sa chambrette, il avait alors 19 ans. Mais voici venir une personne essoufflée, en lui disant que le public avait obligé, à force de siffler, l'autre ténor à abandonner la scène, et qu'il tapait des mains et des pieds en criant « Nous voulons le sou !» Depuis ce jour, Caruso était lancé dans sa carrière. Et en 1898, au Lyrique de Milan, il triompha avec la première représentation de Fédor de Humbert Giordano. Ensuite, il fut le plus célèbre ténor de l'opéra italien, jusqu'à ce que, appelé dans différents pays d'Europe, il fût invité au Metropolitan Opera House de New York, où il débuta avec Rigoletto. Pour être un bon chanteur, et grand chanteur, expliquait un jour Caruso, il est indispensable d'avoir un grand thorax, une bouche grande, 9/10 de mémoire, beaucoup de volonté au travail et quelque chose dans le cœur. Lui, il possédait tout cela. Il avait un thorax énorme qu'il pouvait dilater de 23 cm. Avant d'entrer en scène, il suivait rigoureusement une série d'opérations. Tout d'abord, des gargarismes profonds avec de l'eau salée. Puis, une petite prise de tabac pour dégager les narines. Ensuite, il buvait un bon verre de whisky, suivi d'un verre d'eau de Seltz, et finalement mangeait un quart de pomme. Il mettait dans sa poche une petite fiole d'eau chaude salée pour s'en servir pendant la représentation au cas où il lui venait un peu de catarrhe. Si ça lui arrivait, il tournait le dos au public et rapidement avalait le contenu de la fiole sans que personne s'en fût aperçu. Il était en outre très susceptible aux critiques. Quand la critique d'une ville dit du mal de son interprétation, il jura de ne plus y mettre les pieds pour y chanter et maintint sa promesse. Cela, je crois, lui arriva avec la ville de Buenos Aires. De son caractère, il était très rigolo. Il aimait les plaisanteries. On raconte que pendant une représentation de la Tosca de Puccini, son ami Antonio Scotti se plia pour ramasser un pinceau tombé au chevalet. Mais le pinceau resta collé par terre. Caruso l'avait cloué d'avance sur le plancher. Dans un de ses livres, David Ewen raconte qu'une fois Caruso chantait pour l'enregistrement sur disque avec Géraldine Jarre, le duo de l'opéra Madame Butterfly. Cela était un travail long et pénible. Caruso s'échappa un instant pour courir au bar en face et se restaurer avec un petit verre. À son retour, la Jarre, avec malice, mélangea à la romance ces quelques mots. « Tu as bu un whisky ?» À quoi Caruso, tout en chantant, répondit « Non, j'en ai bu deux. » Le disque est resté avec ces mots et il est unique au monde, car il fait partie d'une grande et rare collection. L'épisode le plus doux de sa vie est sûrement l'histoire de son mariage. Il avait 45 ans et il était au sommet de sa gloire quand il connut Dorothy Park Benjamin. Jeune fille américaine timide et pas du tout mondaine, de 20 ans juste passés et qui venait de sortir d'un collège de sœurs. Il la courtisa, gagnant son amour malgré l'opposition et la contrariété de la famille. De la biographie écrite par sa femme même et à travers les lettres qu'il lui adressa en anglais, on connaît que les brèves années de leur vie conjugale furent une vraie idylle. Ces lettres sont uniques, et même les fautes qu'il faisait en écrivant dans une langue qui n'était pas la sienne augmentaient leur charme. Ils vivaient tous deux tranquilles dans un appartement dans un hôtel de New York. Caruso ne n'aimait pas sortir car la foule le dérangeait. Ainsi, il restait à la maison en compagnie de sa femme. Henri, avec ses lunettes en or, collait des timbres et des morceaux de journaux qui l'intéressaient. Elle lisait. Souvent, à minuit, il avait faim et se faisait porter alors un pain entier et quelques tranches de rôti. Il ouvrait le pain en deux, y mettait le rôti au milieu et il le mangeait comme un sandwich. Quand il était invité à dîner, il acceptait à une seule condition, celle d'être placé à côté de sa femme. À celui qui portait l'invitation, il disait chaque fois « Dites à madame que j'ai épousé ma femme pour être à côté d'elle. Si je dois être loin, je préfère rester à la maison. » En décembre 1920, pendant qu'il chantait la romance du premier acte de l'opéra « Élixir d'amour » au Metropolitan à New York, il lui éclata un petit vaisseau sanguin dans la gorge. Il voulut continuer jusqu'à la fin de l'acte. Son mouchoir était plein de sang. Des choristes lui en donnèrent discrètement un autre, et puis un autre encore, qui furent tous imbibés. Sur ses lèvres aussi, on voyait un filet de sang. Sa femme, Dorothy, assise à la première file des fauteuils, le supplia avec des gestes de s'arrêter. Mais il voulut continuer jusqu'à la fin. À la veille de Noël, de la même année, il retourna encore une fois au Metropolitan, mais il se sentit mal. Il subit 7 opérations pour abcès pulmonaire, mais il ne chanta jamais plus. Dans le courant de l'été suivant, il s'embarqua pour Naples. Là, dans un petit hôtel face au golfe, il mourut à l'âge de 48 ans seulement. Dans son livre Enrico Caruso, sa femme Dorothy écrit « Assise près de la radio, j'ai écouté une transmission de certains de ses disques merveilleux, dédiés à sa mémoire. Combien il aurait agréé un si touchant hommage, il aurait certainement dit « Oh, les braves gens, ils se rappellent encore de moi. » La gloire du plus grand ténor survit encore dans le cœur de ces deux dernières générations. Texte rédigé par mon père en 1948 et lu par Walter. Texte rédigé par mon père en 1948 et lu par Walter.